La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous allons passer une heure ensemble et on va vous montrer qu'en France, des femmes et des hommes se retroussent les manches pour faire face à la crise. Des entrepreneurs, des associations qui se réinventent et qui trouvent des solutions. La France bouge, à mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et tous. Allez, il paraît que dans 10 jours, c'est Noël. Qu'est-ce que l'on achète? Quels sont les tendances? Notre invité, l'un des plus grands vendeurs de France, le patron de Fnac Darty.
À la une, en effet, en cette période de Noël, la technologie et le son. Elle est connue pour son enceinte fantôme de Vialet. Est une entreprise parisienne qui n'aura mis que 12 ans pour se faire un nom et être une pépite d'or parmi les géants du son. Son directeur général sera avec nous d'ici quelques minutes.
Il a commencé par vendre un livre dans son garage. Vous connaissez cette histoire, mais je suis sûr que vous ne savez pas de qui je vais vous parler. Il est devenu aujourd'hui l'un des plus gros vendeurs en France de produits high-tech. Laurent de la Clergerie ne savait pas comment appeler son entreprise. Il a donc tout simplement pris ses initiales LDLC. Et LDLC, ce sera notre saga du jour dans La France bouge.
Chaque jour, les trophées Europe 1 La France bouge. Un projet est défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, l'équipe de La France bouge et notre partenaire CCI France ont retenu les souvenirs partagés. Des cadres photos avec du son et de la vidéo pour transmettre des moments passés en famille. On a hâte d'écouter le pitch et ce sera à 13h45.
Et bien sûr, demain au travail en fin d'émission, comment trouver des modes de recrutement plus inclusif, on vous en parle aux alentours de 13h50.
Allez, bienvenue dans La France bouge, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
C'est donc dans 10 jours Noël, un Noël qui s'annonce quand même un petit peu particulier, marqué par le boom du e-commerce, mais quand même, semble-t-il, par notre envie de se faire plaisir en cette fin d'année. Et on en parle avec notre grand patron du jour jusqu'à 14h.
Bonjour Enrique Martinez.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le PDG du groupe Fnac Darty, une entreprise que vous connaissez. C'est bien. Vous avez commencé comme directeur de magasin Fnac au Portugal. Oui. Vous avez même lancé la filiale portugaise avant de vous voir confier des directions plus larges et donc de prendre ensuite la direction de l'entreprise qui regroupe aujourd'hui Darty. Le groupe, c'est plus de 800 magasins, 26 000 salariés. Vous jouez gros ces prochains jours, Enrique Martinez, parce que la Fnac Darty, ce sont des biens culturels, des livres, des CD, mais aussi de l'électroménager. 10 jours avant Noël, vous devez jongler entre l'afflux des clients dans les magasins et les ventes en ligne qui explosent. Alors, première question, comment ça va?
Ça va dans le sens où tout fonctionne. Il ne faut pas oublier la logistique. Et on en parlera tout à l'heure parce que ça fait vivre tout ça. Mais on est très content parce que les magasins sont réouverts depuis quelques jours. Les sites internet ils fonctionnent et ça c'est plus cette année que d'habitude.
Vous cartonnez cette année.
Mais nous on est très contents de voir nos collègues au magasin pouvoir recevoir les clients avec de bonnes conditions. Ça fait partie du modèle qu'on aime bien, celle du digital et du physique.
Vous allez bientôt présenter vos résultats, donc les autorités boursières vous interdisent de donner une tendance trop précise, je vous le rappelle si vous l'aviez oublié, mais on est d'accord que ça se passe quand même pas trop mal, ou au moins que vous sentez une vraie envie de la part des clients et des Français de se faire plaisir.
Nous avons la chance d'avoir des produits qui sont à la fois nécessaires, utiles et agréables. On l'a vu pendant les confinements, des électroménagers, des produits pour télétravailler, pour jouer à la maison, ont été des catégories qui ont mieux résisté à la crise. Mais ces catégories aussi sont les catégories par destination principale des cadeaux Noël. Et j'ai parlé du livre, où la Fnac est les premiers libraires de France. Donc nous avons des produits qui effectivement sont très propices pour ces jours. Et les magasins et les sites ouverts, ils nous laissent comprendre qu'on est dans des bonnes conditions pour faire
un Noël. Donc c'est parti pour un Noël où on se fait plaisir, donc ça marche plutôt pas trop mal en ce Noël 2020.
Oui, disons ça.
Disons ça. Alors, comment vous gérez les règles sanitaires, Enrique Martinez? Parce que je crois que samedi, gros week-end pour les achats de fin d'année, il y avait 400 mètres de file d'attente au pire moment devant votre magasin, par exemple, du Forum des Halles à Paris. Vous gérez ça comment? Parce que c'est un afflux massif, ça.
Oui, en fait, c'est simple. On appliquait un protocole sanitaire très strict depuis les débuts, depuis mai. Masque, gel, parcours. Ça rassure beaucoup nos clients, mais aussi nos collaborateurs, qui sont les premiers exposés à ces flux des clients. Et ça veut dire que parfois, il faut faire attendre les clients à la porte parce qu'on a dépassé notre capacité dans le magasin. Mais ça s'est fait avec beaucoup de tranquillité. Les clients, ils comprennent. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut comprendre et accepter ce type de mesures.
Mais on peut attendre longtemps ?
Non. La réalité, c'est que les flux sont assez rapides. Le confort d'achat au magasin, il n'était jamais aussi bon à Noël parce qu'il y a moins de monde à l'intérieur. Mmh. On a les mêmes équipes. La fluidité au parcours des achats est assez rapide. Donc, vous vous trouvez rapidement dans une dynamique, vous rentrez. Et après, vous avez des bons vendeurs qui vous
c'est
attendent.
Ça, vous êtes pris par la main.
Vous attendez un peu dehors, mais à la fin, le parcours, il n'est pas plus long.
Quand vous dites que vous avez autant d'équipes que d'habitude, c'est-à-dire que vous avez embauché le même nombre d'intérimaires, le même nombre de saisonniers pour faire face à cet afflux de Noël que ce qui aurait été le cas normalement?
Oui, globalement. Après, ils ne sont pas venus tous en novembre parce qu'il y avait une partie des magasins fermés, mais pour les pics des fins d'année, globalement, on a embauché beaucoup sur la logistique et les services parce que ça a détourné une partie de l'activité sur la partie online et la préparation, la livraison à domicile. Mais globalement, on a sur un niveau des renforts comparables aux années précédentes.
Plus dans les magasins ou plus au niveau de la logistique?
La logistique, pareil, c'est très, très concentré sur quelques sites, mais l'ensemble des magasins sont quelques renforts pour cette période.
Alors, qu'est-ce qui marche en ce moment? Je crois qu'il y a une petite nouveauté quand même, parce que traditionnellement, les télévisions marchent bien pour les grands événements sportifs. Oui. Mais je crois qu'en ce moment, vous êtes vous les premiers à être étonnés, avec deux raisons. Hein. On est confinés, donc on se dit, bah tiens, on va regarder un peu plus la télé, et quitte à la regarder un peu plus, ben on la change. C'est une vraie tendance ou c'est une imagination?
Non, c'est tout à fait vrai. C'est une tendance qui est sortie plutôt dans les deuxièmes confinements. Au premier, ce n'était pas du tout la catégorie qui était privilégiée pour les clients.
Ce n'était pas le même temps non plus, pas la même météo.
C'était plutôt pour les ordinateurs, pour les portables, les tablettes, en fait, travailler. Et après, il y avait des personnes qui n'avaient pas d'activité parce qu'il était en chômage partiel. On a vu les mondes de la culture, et notamment les gaming, exploser.
Alors, oui.
Mais je pense que les familles se sont dit, on va passer beaucoup de temps à la maison, il faut peut-être investir sur l'électroménager par excellence chez nous, dont la télévision. Les ventes sont importantes.
Alors, c'est aussi une année à jeux vidéo.
Oui.
Est-ce qu'il est encore possible, en ce moment, de trouver les fameuses PS5 et les Xbox chez vous, tant demandées et tant convoitées en cette période de l'année?
C'est fortement peu probable.
Ah. Donc ça veut dire que vous n'en avez plus. Venez quand même sur mon site pour faire du trafic, mais il n'y en a plus.
On ne désespère pas. Peut-être qu'il y a encore quelques unités. Je pense que les personnes, ils sont commandées très en avance. Il y en a eu des afflux
mais
incroyables.
Ceux qui n'ont pas fait de commande, après, n'y arriveront pas.
Il faut attendre un peu. Mais ce qui est bon, il se fait attendre parfois.
On prend un bon d'achat et puis voilà, un bon cadeau et on viendra quand il y en aura.
Mais est-ce que vous êtes vous-même étonné par ce boom? Parce qu'ils n'ont pas réussi à en produire suffisamment à cause du Covid. C'est en tout cas la raison qu'ils avancent. Est-ce que ce sont les seuls dans ce cas-là où vous avez un paquet de fournisseurs qui vous disent « bah non, vous n'aurez pas ce qui était prévu parce qu'à cause du Covid, on n'a pas pu produire comme on aurait voulu le faire ».
Non, globalement, les chaînes d'approvisionnement, elles sont bien comportées. Hein, on verra bien à la fin les chiffres des uns et des autres. C'est vrai que les industriels, ils ont eu des tensions très fortes parce que premier confinement, arrêt, redémarrage, beaucoup de problèmes sur les transports. Franck, je pense qu'il parlera après. Beaucoup de problèmes sur les transports. Approvisionner de la Chine aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a moins d'avions, etc. Mais malgré tout ça, on a résisté à avoir la large majorité des produits disponibles. Après, la PlayStation et l'Xbox, il ne faut pas oublier, c'est un parc des quelques centaines de millions au monde. Et ça construit pendant des 20-30 ans. Et le lancement d'une nouvelle console, c'est toujours un peu comme ça. Il faut attendre probablement les deuxièmes, troisièmes années pour que tout le monde soit équipé à nouveau.
On va continuer à en parler avec vous de toutes ces tendances qui marchent très très fort en ce moment. Enrique Martinez, vous êtes le PDG du groupe Fnac Darty. Et vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Allez, moi je suis un grand enfant, donc je suis très heureux de parler de Noël dans cette émission. On est ensemble jusqu'à 14h sur Europe 1 dans la France bouge avec notre grand témoin du jour, Enrique Martinez, le patron du groupe Fnac Darty.
Et avec vous, Franck Le Bouchard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Devialet. Devialet, c'est le leader français du son. On vous reconnaît grâce à vos enceintes exceptionnelles. Hein. On les appelle les enceintes fantômes. Une innovation brevetée 100% française. Et vous faites partie de ces Français qui font bouger la France, hein, qui nous donnent ce sentiment de fierté.
Qui nous font même danser.
Et qui nous font même danser avec un son absolument extraordinaire. Tiens, avant de rentrer dans le détail, comment ça marche pour vous en ce moment ?
Écoutez, c'est une année de combat. On a nos magasins qui ont fermé partout dans le monde, plusieurs fois. On a nos usines qui ont fermé en France. Mais les ventes web ont explosé cette année. Mais nos vendeurs ont vraiment extrêmement bien travaillé. Et surtout, on a l'Asie, où on a beaucoup investi ces dernières années. On est très présent, notamment en Chine. Et depuis le mois de mars-avril, l'Asie est repartie. Et pour nous, ça a compensé les chutes en Europe.
Donc, année difficile, mais ça va bien.
Année difficile et on se bat et on est en plein Noël, je crois que ça va aller. Et en plus, on a lancé un produit exceptionnel, des écouteurs sans fil Gemini. Mmh. Donc une année de combat et je crois qu'on va s'en sortir.
Alors justement, ces écouteurs sans fil, ils sont français, avec, paraît-il, une qualité de son assez exceptionnelle. Là aussi, hein, vous faites la concurrence avec des géants, bien évidemment, les iPods, les AirPods d'Apple, avec Bose également. Qu'est-ce qui vous différencie ?
Le son. Alors nous, c'est très très facile, hein. Notre mission, ça tourne autour du son. Donc il y a 2 ans, on s'est dit, on veut sortir du salon, hein. Nos enceintes, c'est des enceintes chez vous. Et on s'est dit, on veut lancer des écouteurs sans fil, c'est là que ça se passe, c'est là que ça bouge. Et donc on s'est dit, pour concurrencer les marques que vous avez citées, il y a une seule manière pour nous, c'est la qualité du son et la qualité de l'annulation active du bruit. Et c'est là-dessus qu'on a réussi.
Donc ça veut dire qu'avec vos mini-écouteurs, là, on peut couper le bruit ambiant extérieur. Donc si un jour on reprend l'avion, déjà, ce sera très pratique. Mais là, on peut écouter de la musique ou regarder des films ou même parler au téléphone aussi ?
Oui, bien sûr. Et c'est une expérience assez... Alors évidemment, je suis complètement partial. Mais c'est une expérience unique. Vous êtes dans la rue, vous enclenchez l'annulation active du bruit, vous écoutez votre musique et vous êtes dans une bulle, vraiment dans une bulle. Alors il ne faut pas le faire quand vous faites du vélo, hein. Mais c'est exceptionnel.
Oui. Ou quand vous conduisez une voiture. Alors
surtout
ils ont
pas.
Un prix, hein, aux alentours de 300 euros, ce qui les place quand même assez cher dans le marché. On parle du son depuis tout à l'heure avec Elisabeth. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore De Vialet, qu'est-ce qui fait que vous estimez avoir l'un des meilleurs sons au monde? Je crois que typiquement pour la Fantôme, il y a 80 ou 82 brevets mondiaux sur la qualité du son. Mais faites-nous rêver.
L'entreprise, elle est née dans l'esprit d'un ingénieur, Pierre-Emmanuel Calmel, qui faisait l'électronique et du son. Et donc, dès le début, l'entreprise s'est construite autour des technologies du son. Et l'entreprise De Vialet, on ne fait que ça. On ne se disperse pas. Et donc, depuis 12 ans maintenant, on a investi dans tous les domaines du son, l'électronique, le traitement de signal, l'acoustique, les haut-parleurs. On a nos ingénieurs qui sont à Paris, on a nos usines en France pour maîtriser complètement cette fabrication qui est très compliquée. Et on est concentré là-dessus, on a 180 brevets aujourd'hui et on sait que nos brevets sont exceptionnels et que nos technologies sont exceptionnelles parce que nous sommes appelés par des grands groupes mondiaux pour leur apporter nos technologies.
Typiquement, on peut citer que vous avez été la première marque française à être vendue chez Apple.
Absolument.
Alors qu'Apple, d'habitude, ne vend que sa marque et uniquement
Absolument.
Sa marque.
Absolument, sur les tables Apple, il y avait un HomePod et un Fantôme.
Alors de l'électronique, de l'acoustique, 180 brevets, et tout ça, c'est important de le dire, vos usines, elles sont en France ?
Alors on a trois usines même, deux à nous et une partagée avec l'entreprise Bosch, donc elles sont près de Fontainebleau et près de Caen. Et effectivement,
on n'est pas en Asie, là. On est ici, chez nous.
Non, on est fabriqué en France. Alors, on exporte beaucoup en Asie. Hein.
Et tant mieux.
On fait 70% de notre chiffre d'affaires à l'export. Mais effectivement, la Fantôme que vous avez chez vous, elle vient du Châtelet-en-Brie, pour être précis.
Enrique Martinez, je rappelle que vous êtes le patron du groupe Fnac Darty. Quand on va se balader dans les Fnac, on voit qu'il y a une bonne place pour De Vialet. C'est un partenaire important pour vous ?
Oui, en plus, on adore à titre individuel, mais aussi la marque. Et avec Franck et ses équipes, nous avons battu un partenariat. On a créé des cabines spéciales parce que c'est une enceinte qu'il faut l'écouter. C'est un joli objet, mais quand vous l'écoutez, et vous l'écoutez dans des bonnes conditions, dans les magasins, ça fait tout son sens. Donc c'est la seule marque avec De Vialet que nous avons créé ces conditions acoustiques dédiées à un seul produit dans l'histoire de la Fnac. Donc vous voyez l'importance pour nous de ces relations.
Donc un produit en plein centre de la Fnac, est-ce que le fait qu'il soit fabriqué en France, le fait que ce soit une marque française, est-ce que c'est important la Fnac ?
C'est important,
dans
oui,
le
c'est
choix,
important. Après,
de la
les
mise
clients,
en avant.
Ils s'apprécient qu'ils soient français, mais après, ils aiment bien les designs et la qualité.
Oui, évidemment, c'est parce que c'est une bonne qualité, mais est-ce que dans le choix de les mettre en avant, de constituer une équipe dédiée à De Vialet, parce que vous avez des vendeurs spécialisés De Vialet au sein même de la Fnac, est-ce que le fait que ce soit français, c'est quelque chose que vous mettez en avant et qui plaît à vos clients ?
Oui. Ça ne déplaît pas, en tout cas.
Mais
bien évidemment, il y a très peu de marques technologiques françaises,
c'est
malheureusement.
Oui.
Qu'on y a une, et en plus, on a des bonnes relations, on a tout l'intérêt à la faire grandir et l'accompagner avec de la modestie. Mais on les a aidés à sortir avec la Fnac dans d'autres pays, en Espagne, en Suisse.
Donc,
on
un
pas
véritable
en Chine,
partenariat.
Mais... Voilà.
Et plus largement, le son, c'est quelque chose d'important chez vous. Là aussi, vous bénéficiez des confinements. On s'est dit qu'on voulait écouter de la musique de bonne qualité à la maison avec de Vialet ou autre, hein, puisque vous ne vendez pas que ça, bien évidemment. C'est une tendance importante,
hein ? C'est une tendance. Cette année, la mobilité, c'est un peu moins vrai, parce que les personnes se déplacent moins. Il y a une partie en mobilité qui est importante pour la catégorie. Pour les restes, oui, c'est très important. Nous sommes les leaders de ces marchés. Je pense que le streaming a fait changer tous les équipements des clients. Et aujourd'hui, il y a des clients qui cherchent les digitales, mais avec des bonnes qualités. Et c'est là que des Vialet rentrent très bien pour les personnes qui peuvent avoir un budget un peu important.
Bien évidemment.
Franck Le Bouchard, pour de Vialet, la suite, c'est quoi ? C'est quoi la prochaine étape ? On a l'impression qu'en 12 ans, vous avez déjà tout réussi.
J'aimerais bien qu'on ait tout réussi. La suite, c'est autour de deux grands axes de croissance pour nous. C'est d'autres produits. Il y a plein de catégories de produits où de Vialet n'est pas présent. Et on a des projets dans les cartons que vous verrez sortir l'année prochaine.
Des tablettes.
Qui sont extraordinaires. Je ne vous en dirai pas plus. Et puis la suite, c'est continuer l'export. Voilà, on est assez peu présent encore en Inde. On veut se déployer.
Alors, on dit souvent
que
vous travaillez à quand même des choses pour arriver dans les voitures, notamment dans les voitures connectées. Ça, c'est pas vraiment un secret.
C'est pas trop un secret, mais effectivement, bientôt de Vialet dans les voitures.
Et ben voilà, on écoutera Europe 1 avec un bon son. C'est encore meilleur qu'avec un mauvais son, c'est sûr.
Merci Franck Le Bouchard.
Merci à vous.
Vous êtes le directeur général de Vialet.
Et Enrique Martinez, le PDG du groupe Fnac Darty. Vous restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
La France bouge, on est comme chaque jour très heureux avec Elisabeth de vous accueillir sur Europe 1 entre 13h et 14h dans cette France bouge où on parle aujourd'hui de Noël avec Enrique Martinez qui est le patron du groupe Fnac Darty. Alors à ce même micro, il y avait la semaine dernière la patronne de Cdiscount qui nous disait que la grande tendance de ce Noël, c'était la mobilité, les trottinettes, les vélos électriques. Vous avez par ailleurs un partenariat, vous, avec Citroën. Vous avez lancé en juin dernier un véhicule sans permis. Alors, c'était passé entre les deux confinements. Est-ce que ça fonctionne et est-ce que cette tendance de la mobilité est réelle ?
La mobilité aujourd'hui, c'est une question des sociétés. Ça va révolutionner la mode comme on vit au quotidien. Et je pense que cette année, avec les confinements, mais aussi les peurs du transport en public, ils ont poussé à beaucoup de monde à prendre des véhicules, trottinettes, vélos. C'est un marché qui va exploser dans les prochaines années.
Et qui explose là déjà en ce moment.
Oui, oui, cette année, c'est une croissance incroyable. Dans tout type de produits, effectivement, nous avons lancé avec Citroën une petite voiture AMI qui répondent à des questions des mobilités pour des plus de 14 ans sans permis, mais aussi dans des conditions de sécurité un peu plus renforcées.
Et vous en vendez, alors c'est des systèmes de location principalement, mais
on les vend,
et ça marche bien.
Ça marche bien. Il y a un système des leasing, vous pouvez les payer en mensualité. Mais ça plaît beaucoup à des personnes pour donner une solution de mobilité pour des jeunes dans des villes à petit parcours.
Mais quand on va à la Fnac, en général, on ne pense pas à acheter une trottinette ou une voiture. Vous êtes en train de vous diversifier, d'aller davantage vers ce milieu de la mobilité ?
C'est hyper important. Ça a été toujours l'histoire de la Fnac et d'Arty, par ailleurs, d'être toujours à l'auteur des évolutions technologiques et de la société. La Fnac, au début, il n'y avait pas tous les produits qu'il y a aujourd'hui.
Non,
donc, on a su toujours être un pas en avant.
Ce sera quoi,
et la mobilité urbaine, l'année dernière, en 2019, on a été les premiers vendeurs des trottinettes en France, même si personne ne l'aurait dit au début. Mais ça correspondait bien à la cible des clients que nous avons, urbains, jeunes et pas aussi jeunes, et qu'ils veulent trouver des produits et les conseils et les services que nous pouvons les prêter.
Vous avez ouvert dès le début du deuxième confinement, ce qui a généré ensuite le gros bazar sur les rayons essentiels ou non. C'est de votre faute d'une certaine manière. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir un peu forcé la main ?
Honnêtement, je pense que ce qu'on aurait voulu tous à cette époque-là, c'est que les gouvernements regardent avec une attention spéciale les librairies. Ce qui aurait permis à tout le monde de rester ouvert en de bonnes conditions, notamment sur les réseaux libraires. Mais ça n'était pas possible et tout le monde a dû accepter, on a dû fermer. Mais je pense que nous avons fait ce que nous avions à faire.
Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant si vous êtes fait gronder par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie ? Je crois qu'il n'était pas très content de votre initiative au démarrage.
Honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour Bruno Le Maire parce qu'il s'est battu avec beaucoup d'efforts et de convictions pour soutenir le monde du commerce. Je pense qu'il a fait un public, un privé, et nous avons des bonnes discussions avec eux. Et à la fin, ça s'est fait une concertation.
Ça, au début, vous êtes fait gronder, puis après, ça s'est bien passé.
Je pense que tout le monde respecte, et quand c'est une société qui a des actionnaires, des employés, on doit aussi défendre nos intérêts et défendre les intérêts de tout le monde et les gouvernements après faire des arbitrages pour que tout ça soit cohérent. Donc, mais il y a dans les fonds, et j'insiste, il y a beaucoup de respect pour ce que le gouvernement et particulièrement les ministres a fait pour défendre et pour nous permettre, pour les quelques semaines après, pouvoir réouvrir avec des bonnes conditions.
Donc, une fois que ça ferme, il faut s'organiser. Et là, le digital arrive comme le sauveur de tous les commerçants, hein, quelle que soit la taille du commerce, et notamment pour la FNAC. Je crois que votre site a connu un bond historique.
Oui, parce que malheureusement, les boutiques étaient fermées. Les seules chances d'avoir la FNAC chez vous, c'était à travers nos sites. Heureusement, je dirais que ça fait 20 ans qu'on est dans le monde du digital et qu'on a investi massivement pour avoir des sites qui tiennent à la fois la charge, les services et les conditions pour que les clients achètent et soient livrés d'après. Mais effectivement, on s'est trouvé les début mars avec des conditions des pure players pour vendre que sur Internet et livrer que sur les magasins, que sur les domiciles, parce que les magasins étaient fermés. Et ce qui a été un défi incroyable que nous avons pu relever.
Alors, votre grande force est là, même avant le confinement, puisque vous étiez parmi les pionniers, c'est ce qu'on appelle maintenant le click and collect, oui. Hein, tout le monde connaît, les clients qui viennent ensuite chercher leurs produits en boutique quand ils l'ont acheté sur Internet, ça s'est encore renforcé. Et là, pour vous, ça s'accélère encore ?
C'est hyper important. Je vous donne les chiffres. On n'a pas donné beaucoup, mais je donne une. Entre Black Friday et fin d'année, on va livrer plus de 2 millions de colis en click and collect dans nos réseaux de magasins en France. C'est extraordinaire.
Par rapport aux années précédentes, ça représente
plus
quoi ?
Plus que le double.
Plus que le double.
C'est un chiffre. Hein, quand vous faites au jour, par point de vente, parfois ça va à 3 000, 4 000 jours. Vous prenez un bureau des postes en France, en moyenne, je pense que c'est quelques centaines. Donc vous voyez comment les clients ils ont compris l'intérêt. L'avantage, c'est simple. En une heure, vos produits sont prêts, disponibles, sécurisés, avec des horaires d'ouverture et une qualité des services pour récupérer votre colis. Vous savez que vous n'allez pas rater Noël si vous achetez en ligne et vous venez récupérer les produits chez vous.
Mais quand ils décident, quand ils font cet acte d'achat sur Internet, est-ce que finalement, ils n'achètent pas un peu plus qu'en boutique ?
Je pense que les clients, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Et il n'y a pas ni achat d'impulsion. Je pense que d'abord, les clients passent beaucoup de temps avant d'acheter. On comprend, on écoute,
on compare.
Et le digital, c'est très facile parce que vous ne bougez pas de votre canapé et vous comparez avec tout ce qui existe.
Ouais.
Les clients, après, ils sont plus informés qu'avant et après, ils s'achètent en ligne ou au magasin. Ce que nous, on comprend, c'est que quand les magasins sont ouverts, les clients, malgré tout, ils aiment bien venir au magasin pour confirmer, écouter, discuter avec un vendeur. Il y a quand même une force d'avoir
le conseil
de nos
du
équipes et de rassurer, même confirmer les avis des clients. Et ça, c'est un point, un rôle qui est, même dans les mondes du digital, nous on y croit encore plus renforcé.
Et tout le monde aurait eu la même idée que vous, mais comme par hasard, le rayon click and collect, il est à l'autre bout, le plus loin possible du magasin, comme ça on traverse tout le magasin. Ça leur permet, ça nous permet d'acheter un petit peu plus. On prend le dernier livre qui nous plaît et qui nous tape à l'œil au passage.
Honnêtement, je n'y crois pas trop à ça. La réalité, c'est que s'ils sont placés là, c'est parce que la réserve, la logistique est là. Il faut qu'elle soit le plus efficace possible. Mais aujourd'hui, au contraire, il faut que les clients y aillent très vite dans les services pour libérer des temps pour faire d'autres choses.
Et puis pour pouvoir laisser la place à d'autres clients qui sont à l'extérieur en train d'attendre dans le froid.
Pour récupérer votre colis, après rentrer dans les rayons et découvrir qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les rayons de la littérature.
On achète beaucoup d'ordinateurs en ce moment à la FNAC ?
Oui, en fait, les télétravails et l'école à domicile, ça a donné des accélérations très fortes parce que les clients ils étaient moins équipés avec des vieux ordinateurs, parfois un par foyer et pas un par personne. Et ça fait des ventes très très importantes et encore pendant ces périodes et la fin de l'année.
Mmh. Et bien justement, aujourd'hui on va vous raconter une histoire qui a commencé à Lyon en 1997 lorsque Laurent de la Clergerie participe à la chasse au trésor organisée par un magazine que je vous recommande, Paris Match, qui appartient au même groupe que nous. Il gagne alors le premier prix, 100 000 francs, bah oui on était en francs à l'époque, et tout démarre.
Et Quentin Paillet de La France Bouge nous retrace l'histoire de l'entreprise LDLC et c'est la saga du jour dans La France Bouge.
Europe 1, La France Bouge, la saga.
Parfois, il ne faut pas remonter très loin dans le temps pour trouver des belles histoires de réussite française. C'est le cas de LDLC, vendeur en ligne de matériel informatique et high-tech situé à quelques kilomètres de Lyon et créé en 1996. Laurent de la Clergerie, fondateur de LDLC.
Alors, LDLC, c'est un site qui a été créé il y a 25 ans pour vendre tout ce qui est en lien avec l'informatique sur Internet, que ce soit des ordinateurs, des téléphones, voire même des consoles de jeux.
LDLC, un nom de marque en quatre lettres, un peu mystérieux, pourtant sa signification est très simple.
En fait, LDLC, c'est les initiales de mon nom que j'ai mis à une époque où je cherchais une marque et n'en trouvant pas, j'ai pris mes initiales. Les gens se demandent comment une boîte créée il y a aussi longtemps a choisi ses initiales pour se lancer sur Internet. Et en fait, j'avais aucune ambition à l'époque, il n'y avait pas de business plan et j'avais pas prévu la croissance.
Pas vraiment d'ambition, pas de prévision de croissance non plus. Ses propres initiales pour le nom de l'entreprise, même l'argent qui lui a permis de se développer, Laurent de la Clergerie l'a gagné un peu par hasard.
Et au départ, j'avais pas beaucoup de travail, donc j'ai participé à une chasse au trésor de Paris Match qui m'a permis de récupérer 50 000 francs de plus que j'ai mis dans la boîte pour m'aider à la développer.
Premier produit vendu par Laurent de la Clergerie sur son site internet, un livre. Et quand on pense à LDLC, on ne peut pas s'empêcher de penser à une autre entreprise de vente en ligne, américaine celle-ci, Amazon.
C'est amusant parce que j'ai lu l'histoire d'Amazon au départ et les deux premières années d'Amazon, c'est les deux premières années d'LDLC. Amazon vendait du livre, LDLC vendait de l'informatique. Après, Amazon a suivi un autre chemin. Mais en tout cas, les boîtes sont nées pareilles. Aujourd'hui, LDLC, c'est clairement le spécialiste de l'informatique sur Internet, j'allais dire sans concurrence sur Internet. Quand je vous dis on n'a pas de concurrence, ce n'est pas tout à fait vrai, nos concurrents ils nous appartiennent, c'est tout.
Néanmoins, Laurent de la Clergerie confesse un regret.
Si j'avais su ce que j'allais faire au début, je n'aurais peut-être pas appelé LDLC. Je reprenais encore un article il y a deux jours qui cite tous les gros acteurs d'e-commerce actuellement avec le Covid et autres. On n'est jamais cité alors qu'on est plus gros que certains de ceux qui sont cités.
Au début de 1996, ils étaient 8 employés. Aujourd'hui, ils sont plus de 1000 et 35 millions de visiteurs uniques sur le site internet l'année dernière. Pourtant, Laurent de la Clergerie le confesse. Même le technicien qui est venu installer le câble chez lui ne connaît pas LDLC. Ça n'empêche pas cette belle pépite française de réaliser 660 millions de chiffres d'affaires en 2019.
Et c'était la saga du jour racontée par Quentin Payet de l'équipe de La France Bouge.
Enrique Martinez, vous êtes le PDG du groupe Fnac Darty et vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et on est toujours avec Enrique Martinez, le PDG du groupe Fnac Darty. On est assez impressionné avec Elisabeth, là, depuis quelques semaines, d'un mouvement massif de la part des entreprises françaises. Et quel que soit leur secteur d'activité, ça va des chaussures aux vêtements, mais également à la hi-fi ou autre, du marché de la seconde main, le marché de l'occasion, mais également le marché du reconditionnement, par exemple, pour les téléphones portables. Est-ce que c'est un marché, Enrique Martinez, sur lequel vous allez, vous en faites un peu, sur lequel vous allez accélérer?
Oui, on fait à travers nos marques, Fnac, Darty, Wifix, qui ça nous appartient. C'est un marché que la Fnac connaît depuis plus de 20 ans. Mmh. Parce qu'on avait, souvenez-vous, dans nos magasins, les deuxièmes déclics, c'est des appareils photo d'occasion que les clients interchangeaient. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est un phénomène de fond. Nous sommes très pour prolonger la vie du produit autant que possible, mais aussi pouvoir donner une deuxième vie au produit pour les personnes qui veulent l'échanger rapidement. Ça concerne surtout les téléphones portables, il faut se le dire, mais de plus en plus, il y aura des nouvelles catégories.
Mais sur les livres, sur les CD, peut-être que vous allez aussi y venir, ou sur les jouets?
Sur les jouets, il y a des éléments d'hygiène.
Plus compliqué, mais livres, CD, c'est quelque chose sur
lequel... Ça existe et ça se développe fortement sur les sites, récupérer des vieux livres et les remettre à la vente.
Alors, chaque jour, Enrique Martinez, on écoute le pitch de La France Bouge. Hein, l'entrepreneur vient présenter son projet. Donc, vous allez mettre un peu votre casquette de coach, hein, d'entrepreneur et de PDG. Et nous sommes avec Loïc Dechabot. Bonjour Loïc.
Bonjour Elisabeth, bonjour Nicolas.
Emmanuel. Emmanuel. Vous êtes
Emmanuel.
Pas grave, Nicolas,
je
c'est très joli.
Emmanuel Dutheil. Alors, Loïc,
je vous en voudrais pas, rassurez-vous.
Vous êtes le cofondateur de l'entreprise Les Souvenirs Partagés. Vous avez 41 ans, vous êtes de Nantes et vous avez eu plein de vies professionnelles. Vous avez été journaliste en radio à Cherbourg, conseiller en gestion du patrimoine. Et puis ce projet qui vous tient particulièrement à cœur, ça s'appelle Les Souvenirs Partagés, je n'en dis pas plus. C'est parti, vous avez une minute.
Que reste-t-il de nos amours, de ces beaux jours? Dites-le-moi, chantait Charles Trenet. Avec Les Souvenirs Partagés, nous enregistrons les souvenirs des grands-parents, en son ou en vidéo. L'objectif est qu'ils se transmettent dans la famille, au fil des générations. Et pour les conserver, nous avons matérialisé nos formats. Une boîte à souvenirs façon Amélie Poulain permet de découvrir les bonnes histoires familiales. Nous pouvons presque déjà les entendre. Ce sont les souvenirs d'enfance, de famille, la rencontre avec le conjoint ou encore la naissance d'un enfant. Mais pour nous démarquer davantage, il fallait aussi sortir du cadre. Et nous venons de créer deux nouveaux formats, un album et un cadre photo un peu spéciaux. Imaginez les petits-enfants scanner une photo avec leur portable et découvrir instantanément une vidéo souvenir de leurs grands-parents. Cela est possible grâce à la réalité augmentée. Alors, que reste-t-il de tout cela ? Eh bien, des souvenirs qui nous poursuivent sans cesse.
Eh bien, bravo pour ce pitch. Vous voyez, je vous en veux pas du tout.
Excusez-moi,
mais attendez, mais il n'y a aucun souci.
On a dû pas être très loin parce que j'ai aussi 41 ans, je viens aussi de Nantes, donc on a peut-être même fait nos études pas très loin.
C'est possible.
Alors Loïc, je vous présente Nathalie Carré. Nathalie Carré, c'est notre experte hein, à la France Bouche qui épluche, qui analyse et qui étudie les dossiers des candidatures pour les trophées La France Bouche Europe 1. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel. Donc.
Bonjour.
Je vous présente Nicolas.
C'est pas comme si je ne le savais pas. Bonjour Loïc.
Alors Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de souvenirs partagés ?
Oui, déjà 4 points positifs. Ben, c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité. On a été éloignés de nos parents, nos grands-parents. Et donc le manque de lien a été criant pour beaucoup et donne peut-être envie effectivement de ce genre de souvenirs. L'album photo et le cadre photo nouvelle génération, c'est probablement le format le plus simple à offrir car il suffit de scanner les photos de l'album ou celles du cadre photo pour que les grands-parents racontent l'histoire. Le prix, puisqu'on peut avoir un cadre photo pour 49 euros. Et puis le site, qui est très joli, qui incarne bien la douceur, les émotions et le partage. Je mettrais un point amélioré ou une suggestion. Le positionnement n'est pas simple parce que c'est un cadeau pour la famille. Mais en fait, concrètement, le cadre ou l'album va bien aller chez l'un ou chez l'autre. Donc, c'est plutôt un cadeau pour chaque membre de la famille offert par les aînés qui veulent laisser des souvenirs. Du coup, le web est-il bon canal de vente ? Je sais que nos aînés ne sont pas anti-digital, mais pas sûr qu'ils se connectent en se disant « Tiens, je vais offrir un album photo en réalité augmentée à mes enfants. » Du coup, peut-être une suggestion, pourquoi est-ce que ça ne deviendrait pas un service que pourraient proposer les résidences seniors, les EHPAD ou tous les lieux où se retrouvent nos aînés ?
Qu'est-ce que vous répondez à Nathalie Carré alors ?
Eh bien, merci déjà de vos conseils, de votre expertise. On est en lien avec la CCI de Nantes, donc tout ça va rebondir. Mais pour répondre à vos remarques, vous avez raison, il faut que ça reste un cadeau. Nous, plus on avance et plus on pense que ça doit être un cadeau du côté des familles ou alors du côté des entreprises. Les familles, ça peut être la génération en dessous les grands-parents. En France, on est en grands-parents en moyenne à 55 ans aujourd'hui, il faut le savoir. Donc c'est cette génération-là qui peut offrir nos cadeaux à leurs propres parents. Et du côté des entreprises, ça peut passer à la fois par les comités d'entreprise ou alors des commandes pour leurs clients, pour des clients VIP ou autres, bien ciblés. C'est un cadeau idéal, en fait.
Ça va être un joli cadeau, effectivement, dans une entreprise. Je me tourne vers vous, Enrique Martinez, PDG du groupe Fnac Darty. Là, vous mettez votre casquette de PDG. Qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative, de cette entreprise, les souvenirs partagés ?
Moi, je viens qu'il vient dans un domaine où il y a beaucoup des choses qui ne sont pas aujourd'hui, qui n'existaient pas. Parce qu'on a fait la transition de l'analogique dans les digitales. Mmh. Et en fait, les personnes, ils savent comment garder ses mémoires, et ils impriment moins, il y a moins des supports dans la maison. Et je pense que ça, lié à la réalité augmentée, qu'on voit apparaître dans d'autres domaines, comme du gaming, mais aussi dans le domaine professionnel, je pense que c'est un joli... Après, il faudra voir effectivement les canaux des ventes.
Et pourquoi parce pas
que ce
pas
sont des choses qu'il faut
pourquoi
voir.
Pourquoi pas à la FNAC, place de la Bourse à Nantes ?
Pourquoi pas ? On est ouvert, à soutenir aussi la France qui bouge.
Eh ben, on vous laisse parler
merci
entre
Emmanuel.
Vous de cette France qui bouge. Merci à vous Loïc de Chabot, cofondateur de l'entreprise Les Souvenirs Partagés. Et merci à vous Nathalie Carré.
Et si vous avez un projet, si vous avez envie d'être challengé par notre témoin du jour, eh bien c'est très simple, vous envoyez votre candidature sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez peut-être la chance comme ça de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Loïc, vous vouliez dire quelque chose, je vous ai vu lever la main.
Juste un bonjour à ma femme Stella qui m'écoute.
Ah bah.
Sans elle, rien ne serait possible.
Toujours une femme derrière un grand homme. Merci à vous. Suite et fin de notre émission avec vous, Enrique Martinez, PDG de la Fnac Darty.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Allez, ça passe chaque jour trop vite, cette France bouge. C'est déjà la dernière partie de votre émission et nous sommes toujours avec Enrique Martinez, le PDG de Fnac Darty.
Et demain, au travail, avec vous, Donia Baghdadi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes associée chez Equateur. Equateur, c'est un fournisseur d'énergie renouvelable. Vous avez 50 salariés et vous avez monté une plateforme pour promouvoir l'inclusion dans les startups. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait un management plus inclusif au sein de votre entreprise, au sein d'Equateur. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour cela ?
Exactement. Donc, chez Équateur, nous avons déjà lancé plein d'initiatives par rapport à l'inclusion chez nous, notamment avec nos fiches de poste qui ont pratiqué l'écriture inclusive. On participe aussi à des salons, des forums spécialisés.
Oui.
Je suis personnellement, je fais partie de JobGlass où je suis interviewée par des étudiants et des étudiantes qui souhaitent savoir un peu plus sur le métier de la tech et de l'énergie. Jonathan Martelly, qui est aussi fondateur, il est engagé auprès d'associations.
Donc c'est quelque chose de fort chez vous, l'inclusion. Ça fait partie de la culture d'entreprise d'Équateur.
Oui, parce que ce qui est peut-être important, c'est de voir aussi ce que ça a pu changer. Du coup, par exemple, de faire des offres d'emploi en écriture inclusive ou ce genre de choses, est-ce que ça vous a permis de recruter des gens que vous n'auriez pas recrutés autrement parce que c'était plus accessible ?
Alors, ça a été très, très salué par les candidats qui l'ont remarqué, des candidates. Et donc, du coup, il y a ce côté de reconnaissance. On se reconnaît dans des postes qui sont au féminin quand on est une femme, par exemple. Aujourd'hui, ça nous a permis d'avoir 40% de femmes managers au sein d'Équateur. On a 7 nationalités différentes. Et donc, Take Your Place contre Take Your Place, qui est un mouvement qui a pour but de promouvoir l'inclusion et la diversité au sein des startups, notamment tech, nous a contactés. On a vu en ça une opportunité pour avoir plus de leviers, pour aller un peu plus dans l'inclusion et dans la diversité.
Et donc, j'imagine qu'au sein même de l'entreprise, la culture de cette diversité, de cette inclusion, se ressent au sein même des salariés. Ils ont une certaine fierté de tout cela ?
Complètement, complètement. Et justement, notamment, on a rempli donc un des leviers de Take Your Place, c'est la plateforme Mixity qui permet de mesurer l'impact de diversité et d'inclusion en ligne. Donc, tous nos chiffres sont en ligne et on est à 83%, donc un score de 83%. On était très fiers quand on a appris ce chiffre-là. On est bon, on doit aller plus loin. Ça nous a permis aussi de voir qu'on a des biais cognitifs au sein d'Équateur sur lesquels on doit encore travailler. On est une boîte de jeunes, donc la majorité, c'est la génération Y. Et on est convaincus qu'il faut de tout pour gagner encore plus en compétitivité et en créativité.
Enrique Martinez, vous êtes notre grand témoin du jour, PDG de Fnac Darty. La diversité, l'inclusion, ce sont aussi des valeurs fortes chez Fnac Darty.
Très fort. Un groupe comme le nôtre, il doit être responsable.
Avec 26 000 salariés,
oui. Et faire partie de cet effort, donner des opportunités à celles qui sont plus en difficulté à accéder au marché du travail. Et on est très contents de les faire. Ce n'est pas un effort, c'est un plaisir. Mmh. Et ça nous rend très fiers. Et les collègues dans les magasins, dans les centres des services, des call centers, ils sont très, très contents de pouvoir recevoir des personnes qui ont besoin d'un petit soutien pour entrer fortement au marché du travail.
Eh bien, un grand merci en tout cas, Enrique Martinez, PDG du groupe Fnac Darty, de nous avoir accompagnés pendant cette heure sur Europe 1. Un grand merci également à vous, Donia Baghdadi, directrice des services d'information et associée au sein d'Équateur, qui est un groupe d'énergie verte.
Merci à vous. On va se retrouver demain, Emmanuel, à 13h. Et nous parlerons de quoi demain ?
Eh bien, demain, on va aller faire un petit tour du côté de Blablacar. Tiens, comment ça marche en cette période ? Est-ce qu'ils sont revenus sur le devant de la scène ?
Et toutes ces mobilités douces.
Exactement. Hein. Est-ce qu'ils ont beaucoup de réservations pour Noël, etc.
Alors à demain, dans un instant le flash suivi de Christophe Ondelat.